Salut à tous, au sommaire du volume 2, nous aurons les voyageurs du temps sur Amiga, Metro Cross sur Atari ST, Hokuto no Ken sur Mega Drive, Happy Trail sur Intellivision, Beach Volley sur Amiga, Wonder Boy 3 sur Arcade, Valis 4 sur PC Engine CD, et la démo Amiga s'intitule Ukwala, c'est signé du groupe Damage. Bienvenue sur le volume 2 de Rétrovision. Rétrovision volume 2, toujours la saison 2 avec au programme des tests de jeux vidéo, des présentations de Flipper, un extrait de l'émission Rétrocore 2, et oui c'est la suite, et comme le veut la coutume, c'est avec un jeu d'aventure que nous commençons, et pas des moindres, puisqu'il s'agit des Voyageurs du Temps, sorti en 1989, et c'est la version Amiga que nous avons testée. Les Voyageurs du Temps est publié en 1989 par Delphine Software et développé par Paul Cuiset et Eric Chahi. C'est l'un des tout premiers jeux d'aventure point and click qui proposait pour l'époque des graphismes somptueux. Comme de nombreux jeux de l'éditeur par la suite, les Voyageurs du Temps la menace est leur premier jeu avec une approche cinématique qui émerge le joueur par sa mise en scène et sa réalisation de qualité. Le personnage se contrôle à l'aide de la souris, et les curseurs indiquent les actions qu'il peut effectuer. On y joue le rôle d'un laveur de carreaux qui découvre une machine à voyager dans le temps, et se retrouve donc à la préhistoire, au Moyen-Âge et dans le futur, un peu à la manière d'un Chrono Trigger. Le jeu est particulièrement dur car les erreurs entraînent souvent la mort du héros. Par ailleurs, certains objets sont minuscules, vraiment minuscules, et donc difficiles à voir. Ajoutez à cela le fait qu'il est impossible de revenir en arrière, ce qui peut bloquer le joueur s'il a oublié de ramasser quelque chose. Certaines énigmes sont aussi limitées dans le temps, et si l'on rate, c'est alors le game over. Personnellement, Les Voyageurs du Temps fut l'un de mes premiers jeux sur Atari ST. Le dessin qui figurait sur la boîte du jeu était digne d'une toile de maître. Et il y avait même un CD audio qui reprenait les musiques du jeu dans des versions remasterisées. Ce point and click est un pur classique qui est toujours aussi agréable à jouer malgré quelques passages très difficiles où il faut vraiment cliquer au pixel près. Metrocross est un jeu de plateforme développé par Namco en 1985. Le joueur doit parcourir 32 niveaux avec une limite de temps à chaque fois. Le jeu diffère dans le sens que le joueur ne contrôle pas tous les mouvements du personnage. En effet, oui, c'est l'ordinateur qui fait avancer le perso et le joueur s'occupe de lui faire éviter les obstacles qu'il rencontre. Certains niveaux ont aussi des ressorts qui augmentent énormément la vitesse du personnage et des skateboards qui augmentent un peu la vitesse mais surtout rendent invincible contre certains objets. Les obstacles sont principalement des plaques de verre et des jets de vapeur. Plus tard dans le jeu, il y a aussi des balles qui rebondissent partout et des grenouilles qui vous sautent dessus pour vous ralentir. Cogner les obstacles enlève du temps au compteur, mais certains barils peuvent aider le joueur. Il y a deux types de barils, un bleu et un vert. Si on détruit les barils, on gagne des points de bonus, mais si on saute dessus, alors le baril bleu arrête le temps pour quelques secondes et le vert permet d'aller un peu plus vite. Malgré le fait qu'il soit un peu répétitif, Metrocross est un bon petit jeu qui éveillera d'agréables souvenirs à ceux qui y ont déjà joué. Okutonoken sur Mega Drive est un jeu de baston à scrolling horizontal qui reprend la deuxième partie de la série animée où Bart et Lynn sont adultes. Vous incarnez Kenshiro, plus connu sous le nom de Ken, et vous devez chasser les armées de l'empereur. On peut choisir le niveau par lequel on veut commencer, selon l'endroit où l'on se situe sur la carte. Le jeu en lui-même est très classique. On avance tout en dégommant les ennemis sur son passage. Mais il est vrai que voir les ennemis frappés par Kenshiro exploser dans une gerbe de sang, surtout quand on est un fan de la série comme Damien, est assez jouissif. Bénéficiant de graphismes soignés et de sprites de bonne taille, ce jeu est d'un niveau de difficulté quand même assez élevé et s'adresse donc essentiellement aux fans de l'homme aux 7 cicatrices. Cette version Mega Drive japonaise reste l'une des meilleures adaptations de l'anime. Et avec juste une vie pour finir le jeu, croyez-moi, c'est vraiment très très difficile. Malheureusement, la version américaine, et donc européenne, baptisée Last Battle, sera outrageusement censurée. Fini les gerbes de sang, donc à éviter. De plus, les noms des personnages ont été remplacés, et même les couleurs des boss sont modifiées. Un vrai scandale. Alors si vous êtes un fanat de Ken le survivant, Okuto no Ken qui était diffusé, je rappelle, au Club Dorothée le mercredi après-midi, c'est définitivement la version japonaise qu'il faudra essayer. Happy Trail, créé par Activision, ressemble au jeu où il faut déplacer des blocs pour former une image. Ici, en revanche, il y a des éléments qui se déplacent et qu'il faut donc diriger dans un labyrinthe. Le but du jeu est de faire en sorte que le chapeau blanc récupère les sacs d'or. Ce simple principe se complique dans les stages finaux avec des labyrinthes plus grands et plus complexes et l'apparition d'un chapeau noir qu'il faut éviter à tout prix. Le jeu, développé par Activision, est souvent considéré comme une pure copie de Locomotion de Konami. Après quelques débats avec la justice, Mattel et Konami n'ont pu se mettre d'accord sur qui devrait payer les frais d'avocat, et donc le procès n'a jamais eu lieu. Ce jeu de volley-ball de plage vous met dans la peau de deux jeunes joueurs qui participent à un tournoi mondial afin de définir quelle équipe est la meilleure. Vous jouerez sur des terrains répartis dans plusieurs villes du monde et à chaque match gagné, une petite séquence animée humoristique introduit la prochaine destination. Ce jeu au graphisme fin et détaillé possède aussi une très bonne maniabilité. D'une prise en main rapide, les plongeons, frappes au filet, réception et autres services à la Jeanne et Serge n'auront plus aucun secret pour vous. Malgré le fait qu'il se termine en un rien de temps, c'est un jeu qu'on refait avec plaisir, seul ou entre amis. Mais c'est bel et bien en mode deux joueurs que le jeu prend le plus d'intérêt. En effet, en mode solo, il faudra souvent faire les mêmes smash au même endroit pour pouvoir marquer des points, ce qui rend les parties un peu répétitives. Ceci étant, Beach Volley est plutôt à réserver aux fans du genre. Pour ceux qui, comme moi, pensaient que Retrocore s'était arrêté au 32e volume, eh bien détrompez-vous. Cette émission sur les jeux vidéo japonais est bel et bien de retour pour notre plus grand plaisir. Toujours réalisé et présenté en anglais par Yakumo, Retrocore 2 reprend à peu près le même principe que les anciens volumes. Si la durée moyenne d'un épisode est restée à 40 minutes, Retrocore 2 semble être allégé dans les rubriques, même si l'on retrouve toujours le Shite of the Month, ainsi que des reportages dans des salles d'arcade très dépaysantes. Avec une période de sortie mensuelle et comptant déjà 6 volumes, Retrocore 2 est bien parti pour durer dans le temps. Et on se regarde un extrait du volume 5 où Yakumo lui-même nous montre qu'il est un grand fan de Retrovision.
No, Retrovision isn't some sort of new section for Retrocore. It's in fact a French language based retro gaming show produced by Robin. Now Robin got in touch with me a couple of, almost a year ago actually, to talk about putting this show into production. And being a fan of Revenge, he's actually done quite a good job. Now, unlike Retrocore, we usually feature mostly Japanese games on Japanese consoles. But Retrovision goes a little bit further and features stuff on the Amiga and the Atari ST, and even the really old, ancient, crusty consoles such as the ColecoVision. So it's not exactly a competition piece to Retrocore. And this actually made quite a refreshing change.
Salut à tous, au sommaire de ce dernier Retrovision de la première
saison. This is the only bit of speech in the entire show. What Robin does instead of doing a voiceover, he subtitles his comments in, of course in French. But no need to worry, because even if you don't understand French, it's still a very entertaining show. Up to volume 9 at the moment, you can get them all over at archive.org.
Bienvenue sur le volume 9 de Retrovision. À ses débuts, Wonder Boy était, avec Alex Kidd, considéré comme une mascotte pour Sega. Ce nick ne sortira qu'en 1991. La série est quand même assez étrange, dans le sens où le premier Wonder Boy est un jeu de plateforme somme toute classique, caractérisé par ses couleurs brillantes, mais il s'est ensuite divisé en deux séries. Une qui a gardé le principe de plateforme, et une autre qui est plus proche des jeux d'action d'aventure et prend place dans un monde médiéval au lieu de préhistorique. Wonder Boy 3 Monster Lair est encore plus étrange. Le jeu se déroule comme un shoot 'em up mixé avec de la plateforme, mais les personnages sont habillés comme s'ils étaient au Moyen-Âge. L'écran défile automatiquement et les personnages tirent des balles, des lasers, des missiles, bref, toutes sortes d'armes avec leur épée. Mais le joueur doit quand même déplacer le héros et le faire sauter. La deuxième partie de chaque niveau se transforme en un shoot 'em up pur où le héros vole sur un dragon. Il faut noter que c'est le seul Wonder Boy où l'on peut jouer à deux simultanément. Durant le jeu, il y a un petit compteur qui vide notre barre d'énergie. Pour la remplir, il faut manger des fruits et il est donc impératif d'en récupérer un maximum tout en tuant les ennemis pour ne pas avoir de game over. Pour un jeu sorti en 1988, Wonder Boy 3 est très beau, et bien que ce soit un peu un ovni dans la série, il n'en reste pas moins très agréable et original. Si comme moi vous avez eu la chance de pouvoir jouer sur cette borne à la fin des années 80, alors ce jeu doit forcément vous rappeler de bons souvenirs. Et c'est reparti avec une sélection de 4 nouvelles tables de flippers et on commence avec la famille Adams tirée de la célèbre série TV du même nom. Ce flipper, très répandu dans les salles de jeu, fait partie des grands classiques et l'atmosphère de la série y est très bien retranscrite. Why, thank you, Bing. On y retrouve tous les personnages de l'oncle Fester en passant par la chose et bien entendu, le thème musical est resté le même que la série originale.
That's the spirit thing. Lend a hand.
Point de vue technique, le flipper est très bien achalandé en rampe, bumper, cible et autres gadgets. La créature du lagon noir est un flipper qui reprend le thème d'un film de série B des années 50, diffusé en France sur la chaîne de télé FR3 au milieu des années 80, dans une version en 3 dimensions qui donnait un effet de relief à condition de mettre les lunettes à filtre bleu et rouge. Sinon, le flipper en lui-même est assez bon, avec l'écran d'affichage des scores qui reprend quelques scènes du film. Alors si vous êtes un fan de films de série B, essayez donc ce petit flipper, la créature du lagon noir. Donjons et Dragons reprend le thème du célèbre jeu de rôle bien connu des amateurs du genre. Ce flipper, sorti en 1987, est très sympa à jouer et c'est un vrai plaisir de retrouver cette ambiance Heroic Fantasy. Pour la petite anecdote, l'image du dragon rouge en arrière-plan est tirée de la couverture d'un des livres officiels Donjons et Dragons. Alors si vous voulez rester dans le classique années 80, essayez donc celui-là, Dungeons and Dragons. Cette fois-ci, c'est le Moyen-Âge dont il est question, avec ce magnifique flipper datant de 1997, intitulé Medieval Madness. Ici, l'une des stratégies principales est d'envahir le château fort à grands coups de catapulte. Pour cela, il faudra d'abord détruire les remparts et ensuite le pont-levis pour pouvoir enfin catapulter la bille directement dans le château. Ce flipper très technique est probablement l'un des meilleurs du genre à essayer de toute urgence.
数千年の時を経て魔元衆とその王ガルギアがグラードの中から復活した。さあ始めるか。レナ、どこへ行くつもりだ。チャム様、バルナ女王が今日処刑されると聞きました。助けに行きます。
おいおい、マジかよ、レナ姉さん。俺たちレジスタンスをおびき出す罠かもしれないし、一人で乗り込んで何ができるんだよ。
Cela faisait longtemps que je n'avais pas testé de jeu sur PC Engine, et plus particulièrement sur CD-ROM. Et le choix, je dois le dire, est très difficile à faire vu la multitude de bons jeux que comprend cette console. Mais c'est avec un grand plaisir que je vous présente Valise, quatrième du nom, sorti en 1991. Après une longue introduction animée de 3 minutes, le jeu commence avec un explicatif des différentes commandes que peuvent effectuer nos héroïnes. Valise, son nom original Mugen Senshi Valise au Japon, est une série de jeux de plateforme action développés par Telenet Japan qui se distingue par ses héroïnes vêtues de manière intéressante. Valise 4 se situe après Valise 3, logique, et nous laisse en revanche utiliser 3 différents personnages. Rena est relativement identique à l'héroïne des jeux précédents, à savoir Yuko, tandis que Amu possède un double saut et que Asphal est plus forte mais plus lente. Valise est en fait le nom d'une épée magique qui est possédée par différentes filles durant la série. Durant les 3 premiers épisodes, le scénario suit Yuko Asso, une écolière qui s'avère être la seule à pouvoir sauver le monde de Vekanti. Un prélude que l'on retrouve dans de très nombreux dessins animés des années 90, tels Kescaflone ou Fushigi Yugi. Chaque personnage a une barre de magie qui se remplit au fur et à mesure. Plus on la charge, et plus le sort est puissant. Mais si on se fait toucher, la barre tombe instantanément à zéro. La série, comme de nombreux jeux PC Engine CD, est entrecoupée de séquences animées qui aident à faire avancer l'histoire.
ダルゲンを倒した力は見事だったな。しかし、俺の真の姿を見て生き残った奴はいない。 死に急ぐか。
Il existe aussi une version Super Famicom du jeu qui est malheureusement très différente. Un seul personnage jouable, plus de scènes cinématiques, système de magie différent et des stages répétitifs. En gros, il est recommandé de faire tous les jeux de la série sur PC Engine pour une meilleure expérience. Pour conclure, Valise 4 est quand même un très bon jeu de plateforme avec plein de séquences animées, vraiment à essayer.